Patricia Martin, pour votre mot de la semaine, à propos des...
Ah, vous me faites des frayeurs.
À propos des derniers bons sondages du président américain, notamment, on parle de la success story de Donald Trump, et vous en parlez ce matin avec l'historien et journaliste Thomas Negaroff.
Bonjour.
Bonjour.
Taux de chômage en baisse, progression du PIB, création de richesses en hausse, confiance aussi en hausse. Donald Trump à la baraka contre toute attente.
Oui, et c'est ça qui est important. On avait prévu et prédit le cataclysme s'il était élu président, c'était au cours de l'année 2016. Et puis quand il est entré à la Maison-Blanche, on a répété à nouveau cela. Mais effectivement, le fait est que les chiffres économiques qui avaient commencé à s'améliorer depuis déjà quelques années sous Barack Obama ont poursuivi dans cette même tendance. Et effectivement, on a atteint des taux de chômage extrêmement faibles. On est aux portes du plein emploi. On a des salaires qui augmentent.
Qu'est-ce qui a marché alors? C'est quoi? Parce qu'il y a une réduction de prélèvements obligatoires.
Oui,
il y a
ce qui a marché, c'est ça. C'est d'avoir redonné beaucoup d'argent aux entreprises américaines qui ont rapatrié énormément de milliards de dollars sur les marchés américains, ce qui a donné un boost pour la bourse américaine, pour le Dow Jones, qui a cru énormément depuis 2017. Donc on a fait beaucoup de cadeaux aux Américains, les plus fortunés, mais surtout aux entreprises qui ont consolidé leurs bénéfices. Donc c'est assez effectivement impressionnant. Et puis il y a aussi une reprimarisation de l'économie américaine. C'est un terme un peu bizarre, reprimarisation, mais c'est une croissance qui repose beaucoup sur les matières premières, ce qui est étonnant du point de vue américain. Les États-Unis sont quasiment en situation d'indépendance énergétique, n'importent plus ou très peu de pétrole, sont même exportateurs nets d'hydrocarbures, ce qui était quasiment jamais arrivé. On a aussi les entreprises de très haute technologie qui, alors là pour le coup, vont également très bien. Donc on a pas mal de moteurs, mais ces deux moteurs principaux, ce sont ceux-ci. Et ça, c'est aussi lié à moins de régulation sous Trump, notamment pour les questions de prédation des matières premières. Mais on a aussi du protectionnisme dans certains domaines. Trump a essayé de faire un peu montrer les muscles avec des pays avec lesquels il y a un énorme déficit, avec le Mexique, avec le Canada, avec évidemment la Chine en ce moment. Donc tout cela, mis bout à bout, effectivement, explique ces bons résultats. En tout cas, des bons résultats à court terme et qu'il faut aussi prendre avec nuance.
À court terme, parce que notamment le FMI, la Fed aussi, je crois, prévoit un ralentissement sur le reste de l'année.
Alors, il y aura un ralentissement. On l'attendait déjà pour là, mais pourtant, on a une croissance extrêmement forte au premier trimestre de 2019. Donc, c'est cyclique, l'économie. Il y a des moments de basse et de hausse, des moments haussiers. Et là, on est effectivement un plafond, probablement. D'autant plus que le problème, quand vous avez un chiffre du chômage aussi bas, c'est qu'il y a une tension sur les salaires. Et ça, les entreprises, ça leur déplaît aussi. Donc, il pourrait y avoir des conséquences. Et surtout, il y a des déficits majeurs. Un déficit budgétaire extraordinairement important. On connaît pas. Il est autour de 4%. Un déficit budgétaire tel, dans une période de croissance, ça n'existe pas, théoriquement. Donc là, on a un déficit extrêmement fort. On a un endettement record. On a des déficits commerciaux qui s'accumulent, 500 milliards de dollars par an. Tout ça sont des indicateurs qui, quand même, nuancent largement les bons chiffres, qui sont des chiffres largement à court terme.
Mais il n'empêche quand même que pour 2020, ça se profile plutôt bien pour Donald Trump pour les prochaines élections.
Si les chiffres restent ainsi, James Carville, lorsque Bill Clinton a été élu en 92, disait tout ça c'est une question d'économie. It's the economy stupid. C'est de l'économie. Et si on en reste effectivement à cette dimension purement économique, là il est clair que les indicateurs sont favorables pour Donald Trump. Il faut que l'économie tienne. Pour lui, jusqu'en novembre 2020, c'est pas demain, les économistes tablent sur un ralentissement de la croissance en 2020 ou en 2021. Là, ça change tout.
Alors, il est plutôt bien placé, plus 45% aussi auprès de la population, en termes de sondage. Il n'empêche que le dossier de collusion avec les Russes n'est pas une affaire totalement classée. Certains ont dit, notamment Jerry Nadler, le démocrate, qu'il y avait une crise constitutionnelle. Est-ce que vous pensez que ça, évidemment, ça peut être un frein, ça peut lui nuire à Donald?
Alors c'est vrai que là on n'est pas au bout de nos peines dans ce domaine-là. Le fils va être auditionné par le Sénat. On apprend des choses sur ses revenus et sur ses pertes colossales de Donald Trump, le grand homme d'affaires dans les années 80. Il a perdu des milliards de dollars dans ses affaires. Donc lui, le grand homme d'affaires, n'a pas été aussi brillant qu'il ne le dit. Et puis effectivement, cette crise constitutionnelle, c'est un président qui dit moi, je n'ai de compte à rendre à personne et la Chambre n'a pas enquêté sur moi.
Là, il a entravé même les pouvoirs d'investigation du Congrès.
Et là, on est sur une crise constitutionnelle de première première importance. Voyons où ça va mener. Pour l'instant, si on en reste à des chiffres importants, c'est les chiffres de l'emploi, c'est les chiffres de la croissance, c'est les chiffres du Dow Jones. C'est ça que les Américains voient davantage. Mais effectivement, si d'aventure la crise russe et l'enquête prenaient une proportion importante, là, il pourrait y avoir des effets, évidemment, qu'on ne peut pas encore mesurer aujourd'hui sur 2020.
Merci Thomas Negaroff et bonne journée.